Depuis l'annonce d'un plan de rapatriement des étrangers légaux par le Pakistan le 3 octobre dernier, des dizaines de milliers de ressortissants afghans ont été forcés de rentrer en Afghanistan. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, et l'Organisation internationale pour la migration tirent la sonnette d'alarme sur leur situation alors que les températures hivernales arrivent dans la région et que la plupart ont tout laissé derrière eux. Léo Torreton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef de la communication pour l'OIM en Afghanistan. Vous êtes en direct depuis Kaboul. Alors, pourriez-vous préciser combien de personnes ont déjà traversé la frontière depuis l'annonce de ce plan?
Alors, depuis le 15 septembre, c'est-à-dire à l'annonce du plan avant même son entrée en vigueur, il y a eu de plus en plus de retours, et ce de façon progressive. Aujourd'hui, on sait qu'il y a environ 375 000 personnes qui sont rentrées par les frontières de Spinboldak et de Torkham. Et on a eu en un seul week-end jusqu'à 95 000 personnes qui sont rentrées, ce qui est considérable. Comparativement, il y a quelques mois, les retours par ces frontières se comptaient en centaines de personnes.
Alors, pourquoi y a-t-il un tel déplacement de population? Pourquoi tant d'Afghans rentrent comme ça chez eux?
Alors, ça a été suite à l'annonce par le gouvernement pakistanais du décret sur le plan d'expulsion des étrangers illégaux. Donc, on a commencé à observer une augmentation considérable de l'arrivée des Afghans en provenance du Pakistan. Et on a eu petit à petit des rapports, et c'est encore le cas, de gens qui rentrent parce qu'ils ont peur. Il y a beaucoup de cas d'intimidation au niveau local. Ça peut être par des forces de l'ordre, mais c'est aussi par du voisinage, par des propriétaires ou même par des employeurs.
Alors, qui sont ces ressortissants afghans qui se trouvaient au Pakistan, pour certains, depuis toujours?
Il y a un mélange de différents ressortissants. Certains sont dans le pays depuis 5 ans, d'autres depuis 10 ans. Depuis même 20 ans, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait leur vie là-bas. Et il y a des enfants et des petits-enfants qui sont nés sur place au Pakistan, ce qui peut donner un mélange de statuts. Et là, maintenant, par conséquent, c'est qu'il y a beaucoup de cas de personnes qui rentrent et qui se retrouvent dans un pays qu'ils ne connaissent pas.
Vous l'avez dit au début de cette interview, beaucoup sur la route ont vécu de l'intimidation, ont été victimes de violences. Quand ils arrivent à la frontière, dans quelle situation arrivent-ils?
Ça dépend des cas. Beaucoup arrivent épuisés par le voyage, stressés, traumatisés par les derniers événements qu'ils ont pu vivre. Et puis, on a aussi des cas médicaux à traiter directement au poste frontalier.
Alors, il y a beaucoup de femmes et d'enfants, d'après ce que vous disiez dans votre communiqué.
Oui, il y a plus de 62% pardon, des personnes qui reviennent sont des enfants ou des adolescents, enfin ils ont moins de 18 ans, et on a environ 49% des personnes de retour qui sont des femmes ou des filles.
Quelle est la situation à la frontière? Alors est-ce que c'est possible de résorber toutes ces personnes et de les intégrer facilement en Afghanistan?
Alors c'est difficile et la situation à la frontière est particulièrement difficile. On dispose, nous, depuis des années d'infrastructures via des centres de transit et d'accueil qui sont sur place, mais qui n'ont jamais été conçus pour accueillir un nombre aussi important d'arrivées. Donc en tant que principale entité des Nations Unies à la frontière, on a dû renforcer nos capacités dans un laps de temps très très court et avec un manque considérable de ressources.
Alors justement, concrètement, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment est-ce que vous soutenez cette population qui arrive?
Tout d'abord, l'OIM, c'est le chef de file du consortium frontalier. Ça signifie qu'on coordonne les arrivées avec plus de 11 organisations partenaires du côté Afghanistan. Du côté Pakistan, on compte le nombre de personnes qui reviennent et du côté afghan, on a des centres de réception et de transit dans lesquels de nombreuses organisations travaillent, ce qui nous permet de mettre en place des examens de protection, un profilage pour identifier les personnes les plus vulnérables, des personnes ayant des besoins spécifiques, des enfants qui sont non accompagnés. Et on donne aussi un accès aux services de santé, à des soins psychologiques. On donne des repas chauds, un accès à des hébergements temporaires. D'autre part, on enregistre les intentions de retour des familles, ainsi que leurs occupations, leurs besoins, et on communique avec leur consentement, bien sûr, à d'autres entités des Nations Unies qui peuvent les aider à se réintégrer dans leur lieu de retour. Et donc, enfin, on fournit une aide financière aux familles, d'une part pour leur permettre de voyager dans cette province de retour, mais aussi pour leur permettre de vivre pendant un mois.
Alors, il y a toujours cette question des moyens pour les Nations Unies et pour l'OIM. Est-ce que vous avez suffisamment de ressources aujourd'hui pour prendre en charge toutes ces personnes?
Non, il n'y a clairement pas suffisamment de ressources. On a lancé un appel pour obtenir des fonds supplémentaires. afin de permettre à toutes les organisations sur place de poursuivre leur travail, mais aussi d'encourager de nouveaux partenaires à nous rejoindre pour accroître notre capacité sur place, qui reste limitée.
Alors, on l'a dit, hein, il y a beaucoup de femmes et de filles qui sont parmi ces ressortissants afghans qui rentrent en Afghanistan. Alors, on sait la situation difficile des femmes et des filles dans le pays. Avez-vous prévu une prise en charge spécifique pour elles?
On sait qu'il y a plus de 49% des retournées qui sont des femmes et compte tenu de la situation des femmes afghanes dans le pays, c'est une question qui nous inquiète particulièrement. Parmi les retournées, il y a un nombre élevé de ménages dirigés par seulement des femmes et elles sont également vulnérables parce que la réintégration, leur capacité à s'occuper de leur famille va être beaucoup plus difficile à mettre en œuvre de leur côté. Et donc leur réinstallation ou leur accès même à des documents légaux va rester un défi quand elles vont arriver en Afghanistan. Donc on a aussi ces conseils juridiques aux frontières grâce à nos partenaires. Mais il faut garder à l'esprit que beaucoup de ces ménages, quand ils arrivent en Afghanistan, leurs conjoints sont parfois détenus au Pakistan, et ça rajoute un stress supplémentaire dès l'arrivée.
Alors cette situation complexe, hein, je le disais dans l'introduction, ça ajoute le fait que c'est l'arrivée de l'hiver et des températures hivernales, ça rajoute encore de la difficulté à cet accueil des ressortissants.
Ça va rajouter de la difficulté. Il fait déjà froid là en Afghanistan, mais il va faire de plus en plus froid. L'hiver, ça peut atteindre dans les moins 20 degrés dans de nombreuses provinces. Et ça signifie qu'il y a un moment où il y aura beaucoup de routes dans le pays qui ne sera pas praticable pour délivrer de l'aide humanitaire, mais aussi beaucoup de gens qui vont rentrer d'ici un mois ne pourront pas avoir accès dans la province qu'ils auront choisie. Et puis, il va rester la question de savoir comment les gens vont trouver un abri ou un logement durant l'hiver, parce qu'il y a aussi des coûts supplémentaires de carburant, de chauffage. Et donc, on a des programmes pour aider dans les conditions hivernales, mais on manque clairement de moyens.
Vous attendez-vous encore dans les prochains jours à de nombreuses arrivées où la plupart des ressortissants sont déjà arrivés aujourd'hui en Afghanistan?
Il continue d'arriver et donc on prévoit toujours de nombreux retours. La question, c'est aussi de savoir si les élections au Pakistan en janvier vont avoir un impact positif ou négatif sur ces retours. Mais pour l'instant, on prévoit toujours de nombreux retours.
Léo Torreton, un grand merci d'avoir répondu aux questions d'ONU Info. Je rappelle que vous êtes le responsable de la communication de l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration en Afghanistan.